L'appel des ouvriers du Seigneur. Nous avons vu en 1 Corinthiens chapitre 12 que les dons de grâce sont une manifestation du Saint-Esprit et qu'ils doivent être exercés dans la responsabilité envers le Seigneur Jésus. Et en fait, nous trouvons que le Saint-Esprit donne la force pour l'exercice des dons de grâce afin qu'ils soient manifestés en eux, bien qu'ils ne soient pas de lui. Éphésiens chapitre 4 et Matthieu 25 versets 14 à 30 nous montrent qu'ils sont du Seigneur Jésus et qu'il les donne par le Saint-Esprit à l'Assemblée.
Matthieu 25 versets 14 à 30. Car c'est comme un homme qui, s'en allant hors du pays, appela ses propres esclaves et leur remit ses biens. Et à l'un il donna 5 talents, à un autre 2, à un autre 1, à chacun selon sa propre capacité. Et aussitôt il s'en alla hors du pays. Or celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et acquit 5 autres talents. De même aussi celui qui avait reçu les 2 en gagna lui aussi 2 autres. Mais celui qui en avait reçu 1 s'en alla et creusa dans la terre, et cacha l'argent de son maître. Et longtemps après, le maître de ses esclaves vient et règle compte avec eux. Et celui qui avait reçu les 5 talents vint et apporta 5 autres talents, disant, « Maître, tu m'as remis 5 talents, voici, j'ai gagné 5 autres talents par-dessus. » Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et celui qui avait reçu les 2 talents vint aussi et dit, « Maître, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'ai gagné 2 autres talents par-dessus. » Son maître lui dit, « Bien, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et celui qui avait reçu 1 talent vint aussi et dit, « Maître, je te connaissais, que tu es un homme dur, moissonnant où tu n'as pas semé, et recueillant où tu n'as pas répandu. Et craignant, je m'en suis allé, et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, tu as ce qui est à toi. » Et son maître répondant lui dit, « Méchant et paresseux esclave, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je recueille où je n'ai pas répandu. Tu aurais donc dû placer mon argent chez les banquiers, et quand je serais venu, j'aurais reçu ce qui est à moi avec l'intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car à chacun qui a, il sera donné, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, cela même qu'il a lui sera ôté. Et jetez l'esclave inutile dans les ténèbres de dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. »
Au sens le plus large du mot, tout ce que le croyant reçoit est un don de grâce. Mais en général, l'Écriture limite le terme au don qui qualifie un croyant pour un service particulier. En 1 Corinthiens chapitre 12, beaucoup de dons sont nommés. Au chapitre 14, verset 22, ils sont répartis en 2 groupes.
Chapitre 14, verset 22, « De sorte que les langues sont pour signe non à ceux qui croient, mais aux incrédules. Mais la prophétie est un signe non aux incrédules, mais à ceux qui croient. »
Premièrement, les dons qui sont un signe pour les non-croyants, et, deuxièmement, les dons qui sont pour les croyants. Dieu a donné les premiers à l'Assemblée comme parure, afin que ceux qui ne croient pas voient qu'il reconnaît l'Assemblée comme son témoignage. Nous trouvons ce principe dans toutes les saintes Écritures. Quand Dieu donne un nouveau témoignage, il fait des miracles et des signes pour montrer qu'il reconnaît ce témoignage. Ainsi, nous voyons des signes puissants opérés par Moïse et par Élie. Et en Marc 16, verset 20, il est écrit,
« Et eux, étant partis, prêchèrent partout le Seigneur coopérant avec eux, et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient,
comme cela avait été promis par le Seigneur dans les versets précédents. Une fois que le témoignage est confirmé et reconnu comme venant de Dieu, ces signes ne sont plus aussi nécessaires. Malheureusement, l'homme a toujours gâté ce que Dieu lui a confié, et Dieu ne peut plus reconnaître publiquement un peuple d'Israël déchu comme son témoignage en le parant des signes de sa puissance. Pour ces deux raisons, nous ne trouvons de miracle ni en Ésaïe, ni en Jérémie ou en Ézéchiel, ni dans les autres prophètes de l'Ancien Testament. Et Dieu devrait-il reconnaître publiquement, comme son témoignage, le christianisme en décadence et déchu, une vraie ruine par rapport à ce qu'il était au début, et le parer des signes qui sont pour les incrédules? Quoi qu'il puisse disparaître, Dieu n'abandonne jamais à son sort son peuple sur la terre. Même dans les jours du pire déclin et de la ruine la plus grande, Dieu a donné ses prophètes à Israël. Et lorsqu'il est parlé en Éphésiens chapitre 4 des dons que le Seigneur confère à son assemblée pour l'édification du corps de Christ, il est ajouté qu'ils subsisteront
jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ.
C'est-à-dire, jusqu'à ce que l'assemblée soit dans la gloire. Éphésiens chapitre 4 énumère les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Au chapitre 3, versets 1 à 12 et 2, verset 20, le service des apôtres et prophètes est mentionné.
Éphésiens 3, versets 1 à 12. C'est pour cela que moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus pour vous, les nations, si du moins vous avez entendu parler de l'administration de la grâce de Dieu qui m'a été donnée envers vous, comment, par révélation, le mystère m'a été donné à connaître, ainsi que je l'ai déjà écrit en peu de mots, d'après quoi, en le lisant, vous pouvez comprendre quelle est mon intelligence dans le mystère du Christ, lequel en d'autres générations n'a pas été donné à connaître au Fils des hommes, comme il a été maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit, savoir que les nations seraient cohéritières et d'un même corps, et coparticipante de sa promesse dans le Christ Jésus par l'Évangile, duquel je suis devenu serviteur, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été donné selon l'opération de sa puissance. À moi, qui suis moins que le moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée d'annoncer parmi les nations les richesses insondables du Christ, et de mettre en lumière devant tous quelle est l'administration du mystère caché dès les siècles en Dieu qui a créé toute chose, afin que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes, par l'Assemblée, selon le propos des siècles, lequel il a établi dans le Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons hardiesse et accès en confiance par la foi en lui. Et Éphésiens 2, verset 20, ayant été édifié sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin.
Ils ont posé la base, le fondement de l'assemblée. Non seulement ils ont donné à connaître l'essence même du christianisme, Éphésiens 3, verset 6 et suivant, mais ils ont aussi, comme de sages architectes, posé le fondement de l'assemblée, et fournit les dessins et plans de construction selon lesquels l'édifice devait être bâti, 1 Corinthiens chapitre 3. Ces deux groupes n'étaient donc pas destinés à durer jusqu'à la fin, 1 Corinthiens 4 verset 9, bien que leur travail, consigné dans les livres du Nouveau Testament, accomplisse encore aujourd'hui son service.
1 Corinthiens 4 verset 9. Car je pense que Dieu nous a produits les derniers sur la scène, nous les apôtres, comme des gens voués à la mort, car nous avons été faits un spectacle pour le monde et pour les anges et pour les hommes.
Le fondement n'est toutefois posé qu'une fois, et non pas toujours à nouveau. Il reste ainsi en Éphésiens 4 les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Ce sont en fait les dons qui, s'ils se manifestent publiquement, confèrent à ceux qui les ont la qualification d'ouvriers du Seigneur. Dans les catéchismes ainsi que dans l'usage courant des églises et communautés, on appelle ces dons des charges. On parle de la charge de pasteur ou de docteur, etc. Ce n'est toutefois pas conforme à la parole. Celle-ci ne nomme pas d'autres charges que les anciens et les serviteurs, diacres. Peut-être que l'apostolat peut aussi être appelé une charge. Acte 1, versets 20 et 25, mais alors seulement dans la mesure où les apôtres étaient institués directement par le Seigneur Jésus.
Acte 1, versets 20 et 25, car il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure soit déserte, et qu'il n'y ait personne qui y habite, et qu'un autre prenne sa charge de surveillant. Verset 25, afin qu'il reçoive en partage ce service et cet apostolat, duquel Judas est déchu pour s'en aller en son propre lieu.
Après la descente du Saint-Esprit, c'est-à-dire dans l'Assemblée, acte chapitre 2, on parle de dons. Cela est d'une importance primordiale, car la différence entre les dons et charges est grande. Une charge donne de l'autorité de par elle-même, quelle que soit la personne qui la revête. Quand un agent de la circulation ordonne d'attendre, on obéit, peu importe qu'il s'appelle Jean ou Pierre. En revanche, si c'est un passant qui l'ordonne, on n'obéira que si l'on sent sa supériorité personnelle. Une charge ne peut être donnée que d'en haut. C'est pourquoi nous voyons dans l'Écriture que les anciens n'ont été établis que par des apôtres ou des personnes ayant reçu d'un apôtre un mandat spécial. Quant aux serviteurs, diacres, qui s'occupaient, sur mandat de l'Assemblée, des questions d'argent, ils étaient nommés par l'Assemblée et aussi par les apôtres qui les établirent sur cette affaire. Mais où sont aujourd'hui les apôtres ou leurs délégués qui pourraient conférer ces charges? Sans parler de l'état de ruine de la chrétienté professante, qui fait que l'Assemblée n'existe plus comme unité visible. Si donc la qualité de pasteur, de docteur et d'évangéliste était une charge, elle ne pourrait plus être décernée aujourd'hui, et l'Assemblée serait privée de l'édification que le Seigneur Jésus veut donner par ses services. L'Écriture parle seulement des dons de pasteurs, de docteurs et d'évangélistes, etc. Christ, ressuscité et monté au ciel, a emmené captive la captivité dans laquelle nous étions et nous a délivrés. Et parmi ces captifs libérés, il prend ses serviteurs et leur confère ses dons. Éphésiens chapitre 4. Matthieu 25, versets 14 à 30 nous montre d'une manière très claire comment un chrétien devient un serviteur, un ouvrier du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui lui confère un don répondant à ses dispositions naturelles.
Matthieu 25, verset 15. Et à l'un il donna 5 talents, à un autre 2, à un autre 1, à chacun selon sa propre capacité.
Le Seigneur ne donne pas le don d'évangéliste ou de docteur à un muet. Ce n'est pas à dire qu'un muet ne puisse pas répandre l'Évangile. Dieu appelle tous les croyants à annoncer la bonne nouvelle du salut. Mais si nous le faisons, nous ne sommes pas pour autant des évangélistes. À ceux qu'il veut employer comme ses serviteurs, Dieu donne, et cela dès leur naissance, les dons naturels qu'ils pourront utiliser plus tard pour leur service spirituel. Le Seigneur confère ses dons à chacun selon sa propre capacité, Matthieu 25, verset 15, et il dirige leur vie afin qu'ils soient préparés pour le service spécial qu'il veut leur confier plus tard. À Jérémie, Dieu dit,
« Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu, et avant que tu sortisses de son sein, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations. » Jérémie 1, verset 5.
Et Paul dit aux Galates,
« Mais quand il plut à Dieu, qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler son Fils en moi, je ne pris pas conseil de la chair ni du sang, ni ne montai à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi,
Galates 1, verset 15, voir aussi Actes 9, verset 15.
Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme m'est un vase d'élection pour porter mon nom devant les nations et les rois et les fils d'Israël. »
Le Seigneur donne donc par l'Esprit à certains de ceux qu'il a sauvés, après leur nouvelle naissance, le don de pasteur ou de docteur ou d'évangéliste selon les capacités naturelles et le développement qu'il leur avait déjà donné avant et après leur conversion. Cela met en pleine lumière les voies de Dieu. Le Seigneur confère le don, c'est-à-dire celui-là même dont le croyant en cause a besoin, en tant que membre du corps de Christ et à la place qu'il occupe dans le corps. 1 Corinthiens 12, verset 18.
Et maintenant, Dieu a placé les membres, chacun d'eux, dans le corps comme il l'a voulu. Or, si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Et maintenant, les membres sont plusieurs, mais le corps un.
Nous ne voyons ainsi jamais deux dons tout à fait identiques. Et cela nous montre les suites fâcheuses d'une organisation humaine dans les choses spirituelles. Dans une organisation, les fonctions, les activités sont fixées. Si un serviteur fait défaut, un autre doit prendre sa place, bien qu'il n'ait jamais exactement le même don que le premier. Dans un organisme comme le corps, c'est différent. Si un membre manque, les autres membres, chacun à sa manière et de son mieux, reprennent ses fonctions, tout l'organisme y collaborant. C'est un fait connu que lorsque des organes doivent suppléer à la fonction d'un organe manquant, ils se développent beaucoup plus que chez des personnes en bonne santé. Il en est de même pour le corps de Christ. Le Seigneur confère à chacun le don qui lui est nécessaire, à la place où il l'a mis dans le corps, et cela en accord avec les dispositions naturelles et la préparation qu'il lui avait déjà donnée. C'est pourquoi il appela un Pierre et un Jean, qui étaient dans leur nacelle de pêcheurs, et un Saul, qui avait été assis au pied de Gamaliel. Il suscita un Luther dans la cellule d'un couvent. Il prit un Darby ou un Kelly qui jouissait d'une brillante formation scientifique, à côté d'un Stanley qui n'avait fréquenté que peu d'années l'école primaire. Le Seigneur choisit ses ouvriers et leur donne ses dons, et quand il les appelle, ils sont propres à son service. Toute formation humaine réduira leurs qualifications pour le service dont le Seigneur les charge, à moins d'une grâce spéciale de Dieu. Ce n'est pas déplacé que des jeunes croyants aient le désir d'avoir un don et qu'ils prient pour cela.
Désirez avec ardeur les dons spirituels. 1 Corinthiens 14, verset 1.
Mais le but doit être le service et l'édification. Verset 3. Car à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée en vue de l'utilité. 1 Corinthiens 12, verset 7.
1 Corinthiens 14, verset 3. Mais celui qui prophétise parle aux hommes pour l'édification et l'exhortation et la consolation. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue de l'utilité.
L'Esprit se manifeste dans l'intérêt de tous. La responsabilité de quiconque a reçu un don consiste donc en ce qu'il est devenu débiteur de tous ceux au profit desquels le don a été donné. Il n'est pas non plus à cet égard son propre maître. Conjointement avec Christ, le Saint-Esprit confirme celui qu'il emploie comme serviteur, même s'il s'agit d'être surveillant de l'assemblée. Ce service particulier est la place convenable d'un serviteur qui est appelé à exercer la surveillance. Il est cependant écrit en Éphésiens 4, verset 16, que le corps s'édifie lui-même en amour par le moyen des dons.
Éphésiens 4, verset 16, « Duquel tout le corps bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure du fournissement produit, selon l'opération de chaque partie dans sa mesure, l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même en amour. »
Et en fait, l'amour est la pierre de touche pratique pour toute vraie édification selon Dieu. L'amour est l'essence du service. Il ne pousse pas seulement à agir, mais à servir dans l'œuvre du Seigneur. Il ne cherche pas son propre intérêt, mais celui des autres. C'est la nature divine manifestée dans l'homme. Mais comment quelqu'un peut-il savoir s'il est appelé par le Seigneur? La parabole des talents.
Matthieu 25, versets 14 à 30 fournit la réponse.
Le Seigneur confère des dons, et, sans déclarer expressément ce que ses serviteurs doivent faire, il s'enquiert, à son retour, de ce qu'ils ont accompli avec ces dons. La possession d'un don comporte en même temps le mandat d'exercer ce don. Mais comment quelqu'un peut-il savoir s'il possède un don? Certes, un croyant, conduit par des sentiments humains, peut se tromper. La facilité naturelle de s'exprimer est quelque chose de tout différent de la possession d'un don de grâce. Prenons un exemple. Comment savons-nous que nous avons la paix avec Dieu? Nous avons suivi le chemin que Dieu indique dans sa parole, repentance, foi à l'œuvre du Seigneur Jésus et à la parole de Dieu qui nous assure que plus rien ne subsiste entre Dieu et nous, après que nous avons été au pied de la croix. Et ensuite, le Saint-Esprit l'a confirmé à nos cœurs en nous donnant la joie de la paix avec Dieu. Eh bien, il en est de même pour le service. Si, obéissant à la parole de Dieu, nous annonçons les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière, 1 Pierre 2, verset 9, il se manifestera si le Seigneur nous a donné un don spécial, et le Saint-Esprit le confirmera aussi à nos propres cœurs.
1 Pierre 2, verset 9. Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière.
Le Seigneur suscitera également dans nos cœurs le besoin de le servir dans les siens, ou d'apporter, comme évangéliste, le message du salut à des hommes perdus. Toutefois, si nous ne connaissons pas pratiquement dans nos cœurs la bonté de Dieu, tout en suivant notre chemin dans sa communion, nous serons de ceux qui cachent leur talent dans la terre.
Matthieu 25, versets 24 et 25, et celui qui avait reçu un talent vint aussi et dit, « Maître, je te connaissais que tu es un homme dur, moissonnant où tu n'as pas semé, et recueillant où tu n'as pas répandu, et craignant, je m'en suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, tu as ce qui est à toi. »
Combien y a-t-il de semblables talents cachés? Ainsi, tous ceux qui ont reçu un don sont appelés à entrer dans le service particulier du Seigneur, et tous ceux qui exercent leur don sont des serviteurs, des ouvriers du Seigneur. Cela n'a rien à voir avec le fait d'avoir ou de ne pas avoir de profession pour subvenir aux besoins de l'existence. Tout ouvrier a le droit de vivre de son travail. 1 Corinthiens 9, 14.
De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile.
Mais il doit, dans une communion personnelle avec le Seigneur, savoir si et quand il doit faire usage de ce droit. Paul, durant son séjour d'un an et demi à Corinthe, acte chapitre 18, faisait des tentes pour subvenir à ses besoins, bien qu'il y eût là des croyants riches. En revanche, à Philippe, il accepta avec reconnaissance le don qui lui était offert. Dieu donne à l'ouvrier le droit de vivre de son travail, et quand celui-ci est persuadé devant le Seigneur de devoir user de ce droit, il peut attendre du Seigneur qu'il pourvoira à tous ses besoins. Le serviteur ne devrait et ne doit compter ni sur des hommes, ni sur des assemblées, mais uniquement sur le Seigneur au service duquel il est. Mais il ne peut user de son droit que s'il l'a effectivement, c'est-à-dire s'il était déjà un ouvrier du Seigneur avant d'y recourir. Il ne se met donc pas au service du Seigneur après avoir décidé de cesser sa profession terrestre, mais il peut prendre cette décision parce qu'il est au service du Seigneur. S'il n'était pas un ouvrier du Seigneur, il n'aurait pas le droit de vivre de l'œuvre du Seigneur. De ce qui précède, il résulte qu'un croyant est ouvrier du Seigneur par le fait qu'il a reçu de lui un don et qu'il l'utilise au service du Seigneur. Il n'a pas besoin pour cela d'une nomination, ni de l'accord ou de la reconnaissance d'un ou de plusieurs autres ouvriers, ou d'autres croyants ou d'assemblées. Paul ne prit pas conseil de la chair ni du sang lorsque Dieu l'appela, Galates 1:16, et Apollos n'attendit pas d'être reconnu par qui que ce soit, mais il prêcha avec un esprit bouillant, alors même qu'il était encore très peu instruit.
Galates 1, verset 16, « Révélez son Fils en moi, afin que je l'annonçasse parmi les nations, aussitôt je ne pris pas conseil de la chair ni du sang. »
Le cas d'Actes chapitre 13 n'a rien à faire avec cela, car il s'agit là d'hommes qui étaient depuis des années au service du Seigneur, mais qui furent alors appelés à un service particulier par le Saint-Esprit. Au premier verset, ils sont nommés parmi les prophètes et les docteurs, et au chapitre 14, verset 14, ils sont appelés apôtres.
Acte 13, verset 1er, « Or il y avait à Antioche, dans l'assemblée qui était là, des prophètes et des docteurs, et Barnabas et Siméon appelé Niger, et Lucius le Cyrénéen, et Manahem qui avait été nourri avec Hérode le tétrarque et Saul. » Et acte 14, verset 14, « Mais les apôtres Barnabas et Paul l'ayant appris, déchirèrent leurs vêtements. »
Certes, on voit, tant pour Paul que pour Apollos, qu'ils jouissaient de la confiance des frères fidèles de l'endroit, bien qu'il ne soit pas dit qu'ils les aient questionnés. Toutefois, même sans le demander expressément, la personne en cause sait bien ce qui en est. Si cette confiance faisait défaut, ce serait un motif de rechercher la présence du Seigneur et de s'examiner à sa lumière. Mais jamais ni Paul ni Apollos ne se sont enquis de ce que penseraient ceux qui étaient serviteurs de Dieu avant eux s'ils allaient prêcher. Il leur suffisait d'avoir été appelés par le Seigneur. Et ce n'est qu'environ 3 ans plus tard que Paul alla à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre. Puis, environ 14 ans après, il est officiellement reconnu par les apôtres lorsque son travail prouva qu'il avait effectivement été appelé par Dieu. Ainsi, seul l'appel du Seigneur, donc la possession d'un don, constitue la nomination et la reconnaissance d'un ouvrier. Il est responsable uniquement envers son maître. Cela ne lui donne cependant pas le droit de prétendre à être reconnu par d'autres. Certes, l'Assemblée a le devoir de reconnaître les ouvriers et de les assister matériellement. Elle ne pourra toutefois le faire que si le Seigneur lui a donné la certitude que la personne en cause est vraiment à son service, et cela est uniquement une chose entre elle et le Seigneur. Le serviteur n'a pas davantage le droit d'exiger que d'autres ouvriers le reconnaissent comme tel. Cela aussi est une question entre les ouvriers et le Seigneur. Mais la seule chose qui importe, n'est-ce pas la certitude d'être appelé par le Seigneur et d'être employé par lui? Cela rend le cœur heureux et donne toute persévérance dans l'œuvre, même si tous devaient nous méconnaître.